Romain Duval, nous vous prie pour avoir un peu élargi les termes du débat et du constat de l'économie. Et je passe la parole, just in time, à Benoît Mable, qui va nous présenter.
Et peut-être pour élargir un petit peu le débat, je vais en fait faire une présentation qui a commencé un peu en amont du papier, par poser certains cadres dans lesquels moi je place ma propre démarche et ma vision de cette histoire d'économie politique des réformes. Je pense que dans le débat économique, bon, sans plus préciser, en débat économique, il y a un problème, il y a une difficulté à penser ces réformes véritablement comme un processus politique. Et en fait, l'argumentation la plus répandue quand on lit, en tout cas quand moi j'écoute les médias, y compris les médias les plus informés, c'est approximativement trois étapes. C'est les choses vont mal, ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose. Les réformes, c'est bien. Il y a des gens qui s'y opposent, c'est mal. Et pour préciser un petit peu plus de l'argumentation la plus répandue, c'est de dire, ah, bien sûr, il y a des oppositions aux réformes parce que ça remet en question les intérêts en place. Et donc le présupposé sur lequel il y a très peu en fait, de réflexion, c'est de dire, bah oui, il est juste et bon de remettre en question ces intérêts en place. Et la question qui est très rarement posée, c'est, mais quid des intérêts qui seraient pas en place, mais qui souhaiteraient l'être? Ou quid des intérêts qui sont en place, certes, mais qui, eux, bénéficieraient des réformes? En quoi est-ce que leurs intérêts, eux, seraient plus légitimes que ceux qui seraient opposés aux réformes? Et si on prête un certain degré de malignité aux opposants aux réformes, c'est très bien, je veux dire, c'est une hypothèse qu'on peut parfaitement faire, pourquoi est-ce qu'on ne prête pas le même degré de malignité aux partisans des réformes? Suite de l'idée de l'argumentation la plus répandue, il y a des oppositions aux réformes parce que les agents ne sont pas capables de comprendre leur intérêt. Les réformes, c'est bien, ils s'y opposent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que c'est bien. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ben, ils seraient par exemple trompés par les intérêts en place qui cherchent à protéger leur rente, etc., etc. Encore une fois, c'est une hypothèse parfaitement admissible, intéressante, etc. La question, c'est qu'il y a un manque de symétrie. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se pose rarement la question de savoir que les partisans de la réforme, eux aussi, peuvent avoir des groupes d'intérêt et que les groupes d'intérêt peuvent essayer de manipuler l'opinion dans le sens qui les intéresse. Ou alors on prête aux agents amenés à se prononcer sur le bien fondé des réformes une insuffisance de rationalité, du style ils ne sont pas capables de comprendre les subtilités de la courbe Angie qui veut que, bah oui, on commence par perdre un peu, mais ensuite on gagne beaucoup. Alors encore une fois, c'est parfaitement admissible comme hypothèse, certes, mais alors pourquoi est-ce que c'est systématiquement les opposants aux réformes qui seraient moins rationnels? Pourquoi est-ce que les partisans des réformes, eux aussi, n'auraient pas un léger déficit de rationalité? Et pourquoi est-ce que ce serait surtout systématiquement plus rationnel que les opposants aux réformes? Et puis pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas la conclusion pour l'ensemble de la théorie économique qui nous présente l'agent rationnel, etc., pour dire, bah, ok, si les gens ne sont pas rationnels, quelles conséquences ça a pour l'ensemble de la pensée économique? C'est-à-dire pourquoi est-ce que subitement un agent économique à qui on prête une rationalité assez étendue dans des choix économiques devient subitement une sorte de débile mental une fois qu'il s'agit d'apprécier les bienfaits des réformes économiques ou les méfaits des réformes économiques? Alors, les principes de méthode, moi, je veux réfléchir, c'est d'abord de prêter un certain degré de rationalité aux agents. Pas forcément une rationalité la plus étendue possible, mais au moins un certain degré. C'est de concevoir les institutions et donc ce sur quoi va porter les réformes comme des compromis provisoires à un conflit politique qui va rester sous-jacent même une fois que l'accord politique aura été établi, et donc que l'analyse du changement institutionnel, donc des réformes structurelles, impose d'intégrer cette logique politique dans l'analyse économique. Plus généralement, si on pense en termes de structure sociale, la validation politique des structures sociales va dépendre du rapport entre l'évolution des attentes sociales, provenir des agents, et les conditions de la satisfaction de ces attentes sociales. Que cette validation politique n'implique pas la dissolution des contradictions entre les attentes des agents, qui sont des attentes contradictoires, donc impossibles à concilier toutes, et que cette validation politique exige donc que la contestation soit intégrée, soit dans une position minoritaire de l'espace politique, donc être un perdant politique, soit dans d'autres types de régimes, éventuellement, que cette contestation soit maîtrisée par l'usage de la violence légitime, pour reprendre une expression bien connue. Et que par ailleurs, la validation politique des structures sociales, c'est une condition strictement nécessaire à la viabilité d'une organisation sociale, et donc d'une économie plus particulièrement. Ce qui veut dire que le critère de viabilité d'un modèle est principalement politique. Et donc, on peut dire que le conflit social est régulé lorsqu'un nombre suffisant d'acteurs sociaux, alors suffisant, c'est évidemment dépendant du système institutionnel politique en question, lorsqu'un nombre suffisant d'acteurs sociaux estime que la configuration socio-économique existante correspond à leurs attentes. Et donc cette condition de viabilité est politique et pas économique. L'efficacité économique, évidemment, joue un rôle, mais elle n'intervient pas directement sur la régulation du conflit social, elle intervient indirectement à travers son influence sur les conditions de satisfaction de la demande politique et sur, évidemment, la position des agents et les attentes qu'ils vont exprimer. Plus généralement, la régulation du conflit social va être le résultat éventuel de l'interaction entre trois sphères. L'une qui est la traduction des intérêts socio-économiques en attente sociale, qu'on peut appeler l'idéologie. Les règles du jeu social, c'est-à-dire en fait les institutions, ce sur quoi les réformes structurelles vont porter, en particulier les institutions économiques, et évidemment la fixation des choix collectifs, c'est-à-dire la médiation politique. L'idéologie, très rapidement encore une fois, l'idéologie va jouer au moins à deux niveaux, dans la perception qu'ont les acteurs de leurs intérêts respectifs, et ensuite sur la séparation entre les attentes dont on étant validé par l'équilibre politique, on considère qu'elles devraient être protégées par les choix collectifs, et celles qui en fait ne vont pas être bénéficiées de cette protection collective et sont supposées rester du domaine privé. Notamment, c'est à ce niveau-là que va intervenir à quel moment on décide que les perdants, en fait, n'ont pas le droit d'exprimer légitimement leurs attentes, et on va dire, en fait, les réformes sont bénéfiques pour l'ensemble de la société. C'est une phrase qui a été pensée tout à l'heure. Les réformes seraient bénéfiques pour l'ensemble de la société, même s'il y a des perdants. À mon avis, c'est une phrase qui est contradictoire dans ses propres termes, puisque s'il y a des perdants, ça veut dire que ce n'est pas bénéfique à l'ensemble de la société. Mais vous voyez, c'est là que l'idéologie intervient pour dire, en fait, les pertes des perdants ne comptent pas, ce sont les gains des autres qui comptent. Alors les institutions, je vais passer très rapidement, la médiation politique plutôt, peut-être ce qui est plus original, la médiation politique va sélectionner évidemment des attentes, celles auxquelles on va choisir d'apporter une réponse, que ce soit en termes de politique publique ou en termes institutionnels, et deux facteurs vont conditionner la viabilité d'une stratégie de médiation politique. D'une part, les institutions qui vont délimiter l'espace de création de l'ordre politique, c'est-à-dire que les institutions politiques jouent un rôle, notamment le type de système de représentation, etc., et aussi les ressources que la médiation politique peut mobiliser pour satisfaire les attentes sociales, ce qui là va dépendre en fait de plus de l'efficacité économique telle que nous économistes, on a l'habitude de manipuler. Et alors, le bloc social dominant, ça va être en fait le bloc qui va conforter la stratégie politique et institutionnelle dominante. En fait, le conflit social va être régulé si la puissance politique des groupes qui sont satisfaits par la médiation politique est suffisamment élevée pour fournir au système politique le soutien dont il a besoin pour se reproduire. Et les groupes sociopolitiques qui vont se reconnaître dans la stratégie gagnante, c'est ça qu'on va appeler donc le bloc social dominant. Et alors, la position, pour terminer très rapidement sur ces éléments purement méthodologiques, c'est évidemment de plaider pour une analyse positive des réformes structurelles, c'est-à-dire en fait s'en tenir très strictement au principe de Wertfreiheit, qui est, pour citer les mots mêmes de Max Weber, une science empirique ne saurait enseigner à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais seulement ce qu'il peut et, le cas échéant, ce qu'il veut faire. Alors, pour revenir plus précisément sur le texte, évidemment, le processus de réforme tel qu'on le connaît sont une modification. Je vais m'intéresser à la France en particulier et à l'Europe, au modèle européen un petit peu plus en général, sont des transformations d'un modèle européen que je ne vais pas préciser particulièrement, et que ces institutions du modèle européen reposent évidemment sur des compromis sociopolitiques que le processus de réforme remet nécessairement en cause. Et la stabilisation d'un nouveau modèle, si ça doit avoir lieu, va évidemment demander l'établissement de nouveaux compromis, c'est-à-dire en fait de trouver de nouveaux équilibres sociaux et politiques ou sociopolitiques. Alors, de nouveau dans le background, qu'est-ce qu'il y a derrière, disons, un petit peu l'idéologie, une certaine idéologie de la réforme? C'est en fait une idéologie qui s'adosse à l'idéologie ou aux théories, il n'y a rien de péjoratif dans l'emploi du terme idéologie, de la modernisation. C'est en fait pourquoi est-ce que les réformes seraient indispensables ? Bah, pour des raisons d'évolution sociétale très générale. Les arguments sont à peu près les suivants, je les donne un peu dans le désordre. Il y aurait disparition de la base sociale du modèle européen à la suite des évolutions de la société. Notamment, il y aurait disparition, ou on voit disparition, des composantes les plus importantes de l'alliance sociale qui formait la base du compromis social-démocrate, ou chrétien-démocrate d'ailleurs, qu'on pourrait supposer être valable pour l'ensemble de l'Europe continentale. Plus généralement et plus profondément et plus anciennement, il y aurait une révolution silencieuse, pour employer l'expression d'Engelhardt, c'est-à-dire qu'il y aurait l'émergence de générations qui seraient plus préoccupées par des valeurs non matérialistes, post-matérialistes, et qui remplaceraient des générations qui, elles, avaient des aspirations matérialistes. Par ailleurs, les nouvelles technologies permettraient un redéploiement des relations sociales à travers le temps et l'espace qui, en fait, séparerait l'individu de son rôle traditionnel, c'est-à-dire, en fait, son appartenance de classe et tout ce qui est supposé définir ses intérêts économiques au sens le plus immédiat. La mondialisation aussi agirait dans ce sens, c'est-à-dire que vous auriez une distanciation des relations sociales et l'apparition d'une société, là encore, post-traditionnelle, c'est-à-dire où les individus ne sont plus déterminés par leur appartenance sociale. Et en fait, pour être rentré dans les éléments les plus lyriques de ce genre de théorie, les individus seraient entrés dans une ère de construction de soi, c'est-à-dire libérés en fait, de leur rôle traditionnel, etc. Ça a notamment des importances pour la division, non seulement pour la division du travail, mais même pour la division sexuelle des rôles. Et alors, sur quoi est-ce que ça débouche en termes de politique publique ? Ben, en fait, c'est sur une réarticulation du dilemme droit-responsabilité, c'est-à-dire chercher à réconcilier l'autonomie individuelle avec l'intérêt de la communauté. Ce que ça signifie en pratique, pour le sujet qui nous intéresse, en fait, de dire, ben voilà, le meilleur moyen de combattre l'exclusion sociale, ça va être de permettre un accès le plus facile des individus au travail rémunéré. Et donc, conséquence, en termes de réforme très clairement, c'est-à-dire que les institutions qui sont tenues pour constituer une séparation nette entre les insiders et les outsiders doivent être démantelées. Pourquoi ? Parce que, bah, en substance, ça empêche les individus d'avoir la bonne construction de soi, puisqu'ils ne peuvent pas participer activement au marché du travail. Critique de cette idéologie de la modernisation destinée cette fois-ci au système de protection sociale, les systèmes de protection sociale engendreraient une culture de la dépendance, et donc la solution, ce serait d'avoir une politique sociale qui est fondée sur le welfare to work, c'est-à-dire en fait une façon particulière de promouvoir la réciprocité entre l'individu et la communauté. Ça déboucherait même dans des choses un petit peu étranges pour un Français, c'est-à-dire ce que Plante appelle la citoyenneté de l'offre, c'est-à-dire en fait de considérer que la citoyenneté est un accomplissement et pas un statut, et que l'accomplissement s'accomplit en participant activement au marché du travail, c'est-à-dire en fait en subvenant à ses propres besoins matériels. Et donc, ce qui reviendrait à l'État de faire, ce serait de faire en sorte que les conditions soient remplies pour que les citoyens aient une chance équitable, au départ, de participer au marché du travail, prennent leurs responsabilités, puissent œuvrer à la construction de leur soi, etc., etc. Et donc, conséquence pratique pour la protection sociale, il faut évidemment la réformer pour encourager la participation au marché du travail et rebâtir la société sur une éthique de responsabilité mutuelle entre la communauté et l'individu, donc droit, responsabilité, etc., où les individus doivent, selon les mots propres de Tony Blair, recevoir ce qu'ils ont donné. Donc on est très clairement plus dans une conception social-démocrate de la protection sociale. Alors, qu'en est-il de ces histoires ? Est-ce que véritablement les individus sont entrés dans l'ère de la construction de soi et est-ce qu'ils repoussent véritablement la protection sociale telle qu'on la connaît en Europe continentale ? Alors, petite analyse empirique faite à partir de données qui portent sur en fait un assez large nombre de pays européens, c'est l'enquête de European Social Survey. Et il y a deux questions là-dedans qui peuvent nous intéresser. La première question, c'est de, on demande aux gens s'ils sont d'accord, un peu en désaccord, etc., ou très d'accord, ou très en désaccord, ou ni l'un ni l'autre, avec les questions suivantes, enfin les propositions suivantes, plus exactement. La première, c'est le gouvernement devrait réduire les différences dans les niveaux de revenus, c'est-à-dire est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait une intervention publique pour réduire les différences, les inégalités de revenus. Et la deuxième question, c'est les employés ont besoin de syndicats forts pour protéger leurs conditions de travail et ou leur salaire. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec des syndicats forts ? Et donc on leur demande, vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Et alors, ce que j'ai regardé, c'est bah, est-ce qu'on retrouve des clivages sociaux traditionnels, c'est-à-dire non modernes, dans les réponses à ces questions ? Et aussi, est-ce qu'on retrouve des éléments, disons, un petit peu plus modernes, donc, qui sont en accord avec ce que disent l'idéologie de la, de la, de la modernisation pour voir s'il y a véritablement des clivages dans les réponses, enfin dans l'accord à ces propositions. Alors j'ai donc mis des indicateurs à la fois modernes et pas modernes, des choses comme le niveau d'éducation, enfin en gros, essayer de mettre la position sociale et les risques et opportunités qui sont attachés à cette position. Donc le niveau d'éducation, le sentiment de l'individu sur le revenu du ménage, la mobilité sociale, définie comme la différence entre le niveau d'éducation de la personne interrogée et le niveau d'éducation du père, le fait d'avoir des employés sous sa responsabilité, savoir si ça allait être facile ou difficile si l'individu voulait monter sa propre affaire, savoir s'il est travailleur indépendant ou pas, est-ce qu'il a un CDD ou un CDI, est-ce que ce serait facile de retrouver un emploi aussi bien que celui qu'il occupe si jamais il venait à perdre celui qu'il occupe, plus précisément, quelle est sa position professionnelle. J'ai fait 27 catégories professionnelles à partir des 489 catégories ISCO. Le sexe, l'âge, le fait d'être né dans le pays de résidence, le fait d'appartenir ou pas à une minorité ethnique, quel est le lieu de domicile, est-ce que vous avez été dans une grande ville ou est-ce que vous avez été dans une ferme isolée et toutes les possibilités intermédiaires. La force du sentiment religieux, est-ce que vous êtes très religieux ou pas religieux, c'est un clivage typique dans les théories de sciences politiques. Et puis des variables indicatrices de secteur professionnel et des variables indicatrices de pays, justement, pour neutraliser certains des effets auxquels il était fait allusion plus tôt. Voilà les résultats résumés des estimations. Les estimations, il ressort que, qu'est-ce qui fait qu'on est pour ou contre les deux propositions auxquelles je me suis intéressé. En fait, plus vous êtes âgé, plus vous êtes d'accord avec le fait que vous voulez réduire les inégalités. Si vous êtes une femme, vous êtes plus d'accord que les hommes. Je ne vais pas résumer tout. En gros, on retrouve que votre position sociale, en gros, plus vous êtes pauvre, plus vous voulez que le gouvernement réduise les différences de revenus. Et à l'inverse, plus vous avez une position sociale élevée dans la société, moins vous êtes d'accord avec ce genre de proposition. Donc finalement, on retrouve des choses qui sont des choses d'économie politique très, très standards et qui sont assez éloignées de ce que nous racontaient les théories de la modernisation. Il y aurait peut-être un ou deux éléments qui attireraient sur l'existence de nouveaux clivages, puisque les théories de la modernisation insistent beaucoup sur les clivages hommes-femmes, comme étant un nouveau clivage moderne. Mais en fait, là, ça ne va pas du tout dans le sens de la théorie de la modernisation, puisque les femmes, qui sont supposées donc rejeter le modèle traditionnel, et donc en fait rejeter la protection sociale qui les maintiendrait dans leur rôle traditionnel, ici, en fait, les femmes sont plutôt plus favorables aux institutions de protection sociale de type continental que les hommes. Maintenant, ça c'était la demande politique. Tournons-nous vers l'offre politique. En fait, ce que j'ai fait une analyse de données dynamiques, une analyse factorielle multiple, sur 9 périodes, sur 3 décennies, à partir des données codées, en fait, des programmes de partis politiques sur un assez grand nombre de pays, une vingtaine de pays, et il y a 138 partis. Je pourrais donner des détails sur comment on fait ça un petit peu plus tard si vous voulez. Mais là, pour gagner du temps, je vous donne juste les résultats. Donc en fait, l'idée est d'essayer de trouver l'espace de l'offre politique et surtout de voir comment est-ce qu'il se déplace au cours du temps. Alors qu'est-ce que donne l'analyse de données? On a 5 axes de différenciation des partis politiques. Et le premier axe, sans surprise, c'est un axe gauche-droite très traditionnel, principalement avec des thèmes économiques qui opposent la justice sociale à la libre entreprise. Et vous avez quelques autres axes qu'on pourrait interpréter en termes de théorie de la modernité, qui sont internationalisme contre autorité politique, valeurs sociétales contre thèmes économiques, thèmes traditionnels contre thèmes nouveaux, et puis un axe intéressant pour l'économie politique des réformes, c'est est-ce que vous contestez ou est-ce que vous souhaitez préserver le modèle national ? Et alors, qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder? C'est l'évolution de la polarisation sur ces axes. Et alors voilà, pour la France, sur 3 périodes, début des années 70 en rouge, milieu des années 80 en bleu, fin des années 90 en noir, voilà l'évolution de la polarisation, c'est-à-dire les positions extrêmes sur chacun des axes, de l'offre politique en France. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate en fait que vous n'avez pas de diminution de l'importance de l'axe gauche-droite, qui est supposé être... terminé dans l'optique des théories de la modernisation, vous aurez plutôt une augmentation de la polarisation. Vous avez la polarisation, en fait, mais qui n'augmente pas fortement, qui a même tendance un petit peu à diminuer sur les autres axes qui sont supposés être les axes nouveaux. Et vous voyez, vous avez une très forte augmentation de la polarisation sur le cinquième axe, qui est l'axe contestation ou validation du modèle national, ce qui peut s'interpréter en termes de un soupçon de crise politique et même de crise systémique, c'est-à-dire remise en cause du modèle économique ou du modèle institutionnel avec des partisans des réformes ou des opposants aux réformes. Bon, ça c'est pour l'Allemagne, je les ai pour les 20 pays, je ne vais pas vous les donner pour les 20 pays. Finalement, quelle est la conclusion que je retire de cette analyse empirique? C'est que vous n'avez pas véritablement de disparition des deux analyses empiriques, celle de l'offre et celle de l'allemand. Vous n'avez pas véritablement de disparition des bases sociales d'une politique de redistribution et de représentation collective des intérêts au profit de la construction de soi par l'intégration sur le marché du travail, que la position sociale des individus conditionne fortement leurs attentes sociales, et que donc dans cette optique, il est assez illusoire de penser que l'égalité des chances qu'on promettrait aux individus suffirait à réprimer leurs attentes en matière de protection et de distribution, si jamais en fait l'égalité des chances conduisait à un processus qui donne une inégalité très forte des résultats. Et que le type de système politique et la nature des alliances sociales va influencer la façon dont les demandes politiques vont se traduire dans les institutions ou les politiques publiques. Et que par ailleurs, les oppositions partisanes, gauche-droite, sont loin d'avoir perdu la pertinence que ne leur donnent plus en fait, les théories de la modernisation. Et cette opposition, on s'interprète très bien en termes d'opposition gauche-droite dans la plupart des cas. Alors, on pourrait se dire, ok, il subsiste des effets partisans, mais finalement, ça doit probablement correspondre à la perception commune d'une partie de la population. Bien sûr qu'il y a des effets partisans, mais une fois arrivés au pouvoir, ils font tous la même politique. Et donc, finalement, il y a la bonne politique économique, et ils la font tous plus ou moins, même si dans les discours, ils se différencient. Donc à ce niveau-là, on peut s'intéresser, est-ce que les effets partisans ont des différences dans la politique, notamment dans les réformes de la protection sociale? Et donc, ce qu'on a fait avec deux co-auteurs, Valentin Lagatti et Jan Schumacher, on a fait une analyse empirique sur 18 pays de l'OCDE et sur l'évolution de la protection sociale dans 18 pays de l'OCDE pour regarder est-ce que la position partisane du gouvernement, qui est calculée sur un axe gauche-droite, là encore, je ne vais pas les détails, je pourrais les donner ultérieurement, est-ce que la position partisane du gouvernement sur cet axe gauche-droite a une influence sur l'évolution des systèmes de protection sociale dans ces pays? La réponse est oui. Que l'impact de la position, donc l'impact de la position partisane, est-ce que votre gouvernement est un peu à gauche, très à gauche, un peu à droite, très à droite, ça a une influence significative et assez nette sur l'évolution des systèmes de protection sociale. C'est-à-dire que l'effet partisan influence significativement les évolutions des dépenses sociales et aussi surtout la générosité du système de protection sociale appréciée au travers du taux de remplacement net de différentes prestations. Et ce que ça veut dire, c'est en fait que soumis à des mêmes chocs économiques, un gouvernement de gauche va augmenter les taux de remplacement, donc va augmenter la générosité du système de protection sociale, alors qu'un gouvernement de droite va diminuer ces mêmes taux, et donc fera entrer l'État social dans une dynamique qui est celle du retrenchement. Donc non seulement les effets partisans comptent, mais en termes gauche-droite, ça a même des effets opposés en termes d'évolution du système de protection sociale. Et alors, comme l'avantage de l'économétrie, c'est qu'on peut faire des chiffres, que c'est qu'en fait on peut mesurer, en fait on s'est amusé à mesurer qu'est-ce qui se passerait si, dans le pays moyen de l'OCDE, on avait un gouvernement aussi à droite que le gouvernement de Margaret Thatcher de 1979. C'est-à-dire, mesurons l'impact d'une révolution conservatrice. Hein, imaginons que, quel serait l'impact donc, sur les taux de remplacement de la protection maladie. En fait. Et ce qu'on trouve, en fait, c'est que bah, pour un choc moyen, un gouvernement de ce type Margaret Thatcher, ça vous conduit à une diminution de 4 points de pourcentage du taux de remplacement par an. Ce qu'il faut s'interpréter comme, au bout de 15 ans, avec un gouvernement de rupture, de révolution conservatrice, en 15 ans, vous transformez le système social de la Suède en celui qui est proche de celui des États-Unis, en tout cas qui serait le système libéral minimal du style filet de protection. Alors la question qui peut se poser, c'est, mais 15 ans, c'est quand même très long. Même Margaret Thatcher, elle n'a pas tenu aussi à droite pendant 15 ans, donc est-ce que ce serait véritablement possible? Et puis l'autre question, c'est de dire, le système anglais, qui est le système de Westminster, il est quand même très particulier, est-ce que ce serait possible dans un autre système politique? On peut penser probablement que non. Et on peut penser aussi qu'à partir du moment où vous mettez en marche une dynamique de retrenchment assez forte, finalement, peut-être qu'elle s'auto-entretient par une disparition de la masse sociale, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Maintenant, combien de temps j'ai pas regardé, 7-8 minutes. Alors j'ai essayé de parler de deux choses. J'ai essayé de parler de Lisbonne et puis j'ai essayé de parler de la crise politique et de la crise systémique en France. Sur Lisbonne, mon interprétation du processus de Lisbonne, donc, auquel il a été fait référence plus tôt, c'est qu'en fait c'est un processus qui incarne les oppositions de système. C'est-à-dire l'opposition entre une voie social-démocrate et une voie néolibérale. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas un Lisbonne, vous avez deux Lisbonnes. Et disons que le Lisbonne d'origine originelle, il est très technologique, R&D, innovation, etc. Et il a une aspiration social-démocrate. Et le Lisbonne néolibéral, il dit, mais oui, bien sûr, tout ça est très bien, il faut de l'innovation, etc. Mais en fait, l'innovation, elle va être permise par les réformes qui sont des réformes d'inspiration néolibérale. Et le Lisbonne 2, alors c'est-à-dire ce que j'appelle Lisbonne 2, c'est les 24 recommandation de Ami Parcours. En fait, quand on est un peu charitable, et parfois je le suis, pas tout le temps, Lisbonne 2 peut s'interpréter comme une tentative de réconcilier les deux positions avec l'équation miracle qui est celle de la flexicurité. Et mon interprétation de la flexicurité, c'est que, en fait, probablement c'est un équilibre, mais c'est un équilibre relativement instable et qui en plus dépend, dont la stabilité doit dépendre des conditions institutionnelles. Et donc, en fait, ce que propose Lisbonne, de façon paradoxale, n'est probablement pas atteignable pour l'ensemble de l'Union européenne, ou peut-être éventuellement pour certains pays, mais pas tous. Et alors surtout, Lisbonne, alors là, ce sera probablement une discussion qu'on aura un petit peu plus tard, c'est intéressant de voir comment des gens qui étaient à l'origine de Lisbonne, en l'occurrence Luc Souteux, qui n'est pas du tout un spécialiste d'économie du travail ou de réforme structurelle, quoi que ce soit, c'est un spécialiste du changement technique. Mais Luc Souteux a, en 2005, à l'occasion de la présidence britannique de l'Union européenne, adressé une note à la présidence britannique, donc à Tony Blair himself, tout au moins aux gens qui travaillent pour lui, et il ressent en fait de cette note que, en tout cas c'est mon interprétation, une conception même technologique de Lisbonne conduit en fait à un démantèlement de la protection sociale. Et Souteux, dans sa note à Blair, l'explique assez benoîtement, où il nous dit finalement l'évolution technique en ce moment va nous conduire à différencier deux types de travailleurs. Les travailleurs qui ne sont pas des intellectuels, qui ont des conditions de travail difficiles, etc. Et puis les autres qui sont des travailleurs, des knowledge workers, des travailleurs intellectuels. Et en substance, au premier, la protection sociale, et au deuxième, pas de protection sociale. Et évidemment, ce qu'il ne voit pas, je suppose, ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en organisant ce genre de dualisme, évidemment, vous sapez les bases de la protection sociale générale. C'est-à-dire que si vous avez une protection sociale qui est réservée aux travailleurs qui ne sont pas les travailleurs, les knowledge workers, il est clair que les knowledge workers vont ne jamais vouloir payer une protection sociale générale, c'est pour les gens qui ne sont pas des knowledge workers. On ne peut pas payer pour ceux dont on ne bénéficie pas. Donc en fait, la dynamique qu'il dit, en plus qui est supposée être la dynamique de la knowledge-based society, la dynamique de Lisbonne, c'est donc une dynamique qui saperait les bases de la protection sociale universaliste, généreuse, etc., et qui est supposée quand même être aussi celle de la flexicurité. Donc là, à mon avis, il y a une contradiction très nette dans ce qu'il dit. Et alors, ce qu'il dit, en fait, c'est cette séparation entre les non-knowledge workers et les knowledge workers. On peut se demander, en fait, si ce n'est pas une sorte de théorisation ou de proto-théorisation d'une rupture de l'alliance qui soutenait le modèle social européen, le modèle européen de capitalisme. Et pour l'illustrer, on peut l'illustrer à partir des données françaises. Alors, un de mes collègues, Stéphane Palombarini, et une de mes étudiantes en thèse, Elvire Guillot, ont fait un travail à partir des enquêtes post-électorales sur 1978-2002 pour essayer, en fait, justement, de regarder cette crise politique française. D'où il ressort que, alors que l'espace politique français de 1978 était structuré par, en fait, deux blocs relativement stables, un bloc de droite qui avait les salariés du privé, les hauts revenus, etc., enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, et un bloc de gauche qui avait les salariés du public, les classes ouvrières, etc., etc. En fait, ces deux blocs se sont fissurés au cours du temps et tendent à se démanteler. Et qu'est-ce qui fait se démanteler les blocs ? Le bloc de gauche se sépare sur la question de l'Europe, et qui, en fait, on peut se demander si la question de l'Europe n'est pas, en fait, la question est-ce que vous voulez un modèle un peu plus néolibéral que le modèle français ne l'est, ou est-ce que vous ne le voulez pas ? Et la droite, du côté droite, le bloc de droite, là aussi, se sépare sur est-ce que vous voulez beaucoup plus de choses néolibérales ou un peu moins de choses néolibérales. Mais là, c'est un peu différent. C'est-à-dire, en fait, ce qui sépare des salariés du privé en général, ce sont les indépendants. C'est-à-dire que les indépendants expriment une demande de néolibéralisme qui est plus forte que les salariés, y compris donc les salariés qui forment la base sociale de la droite. Et alors, face à cette séparation, donc en fait, cette séparation, à quoi est-ce qu'elle aboutit ? Elle aboutit à la fois à 2002, au 21 juillet 2002, et même probablement, mais ça, ils ne l'avaient pas dans leurs données, au résultat du référendum sur le traité constitutionnel européen. Et en fait, on peut supposer trois scénarios possibles. Alors, les trois scénarios sont sans surprise, hein, c'est ceux qu'ils indiquent, mais c'est ceux que tout le monde a en tête. Et mon interprétation, en tout cas, de leurs trois scénarios, c'est que chacun de ces trois scénarios, pour qu'il soit valide, suppose une résolution particulière du dilemme flexibilité-sécurité. Donc trouver une solution particulière au problème de la flexicurité, ce qui expliquerait pourquoi, dans les débats politiques, et en particulier dans le débat de l'élection présidentielle, on est tellement cette affaire de la flexicurité qui soit au centre du débat économique. Alors, les trois scénarios, c'est quoi? Le premier scénario, c'est... le bloc de droite réunifié qui gagne. Le deuxième scénario, c'est le bloc de gauche réunifié qui gagne. Donc là, on est dans un scénario d'alternance assez classique. Et le troisième scénario, c'est quoi? En fait, c'est l'émergence d'un bloc qui s'appelle le bloc bourgeois. Et là encore, il n'y a aucune intention péjorative dans l'emploi de ce terme. Pourquoi bourgeois? Parce qu'en fait, c'est l'alliance des classes moyennes et des classes supérieures qui viennent des deux blocs, hein, qui viennent à la fois du bloc de droite et du bloc de gauche. Et qui sont en fait quoi? C'est une alliance qui est à la fois pro-européenne, c'est ça qui a séparé les classes moyennes des classes ouvrières au sein du bloc de gauche, et c'est ça qui sépare les indépendants des salariés du privé du côté du bloc de droite, qui exclurait donc ce bloc, s'il était gagnant, qui exclurait quoi? Du côté gauche, la classe ouvrière et les employés plus modestes, etc., et du côté droite, les indépendants. Et c'est en fait une alliance que j'appelle donc à la fois pro-européenne et flexicuritaire. Et pour les deux autres blocs, on les connaît un petit peu mieux, donc on peut imaginer ce qui se passe. Le problème, c'est que pour arriver à les réconcilier, il faut résoudre les contradictions qui ont amené leur rupture. C'est-à-dire, en fait, du côté du bloc de droite, il faudrait essayer de recomposer une compatibilité entre les attentes très dérégulatrices et très néolibérales des indépendants avec les inquiétudes vis-à-vis de ce néolibéralisme du côté des salariés, y compris les plus modestes du bloc de droite, et du côté du bloc de gauche, pour le réconcilier, en fait, il faudrait concilier les attentes pro-européennes des classes moyennes de ce bloc, qui sont principalement des classes moyennes et supérieures du privé, du public, pardon, avec les craintes exprimées par la base ouvrière et employée de ce bloc vis-à-vis de l'intégration européenne, qu'on peut interpréter en fait comme de crainte vers une marche forcée, vers un modèle néolibéral qu'il rejette. À bon ou à mauvais escient, je ne me prononce pas sur cette question. Merci.